Aligre FM 93.1 Harmonie du soir. Bonsoir, il est 19h sur l'antenne d'Aligre FM, l'heure pour vous de retrouver, comme chaque semaine, Harmonie du soir. 111e numéro aujourd'hui et 4e et dernier épisode de notre cycle consacré à la musique vocale en Europe au XVIIe siècle. Aujourd'hui, la France, entre musique sacrée et musique profane, entre motet et tragédie lyrique. Nous avons commencé notre voyage en Italie, à la fin du XVIe siècle, à ce moment où la musique quitte les sphères de la polyphonie pour renouveler son rapport au texte. Le madrigal et l'un de ses maîtres, Monteverdi, vont alors inventer un nouveau style, à la fois monodique et accompagné, c'est-à-dire que la voix seule s'exprime et que des instruments viennent la soutenir et même construire son discours. Nous avons ensuite rejoint l'Allemagne et découvert l'œuvre de celui que l'on appelle le père de la musique allemande, Heinrich Schütz, lui aussi influencé par les nouveautés d'Italie, mais toujours tourné vers sa tradition luthérienne et chorale et installé au service de Dieu. Notre voyage s'est poursuivi en Angleterre, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec Henry Purcell, son rapport si raffiné à la prosodie anglaise, sa dévotion pleine de théâtralité et sa vocalité si dramatique qui donnera naissance à l'opéra à l'anglaise. Aujourd'hui, c'est en France que nous nous rendons, et nous vous proposons de découvrir deux aspects de la musique vocale française du XVIIe. Celle consacrée à l'Église, la musique sacrée, et celle consacrée au théâtre, avec l'invention de l'opéra à la française, la tragédie en musique ou tragédie lyrique. Deux facettes d'un art vocal, lui aussi influencé par la modernité italienne, mais avec une spécificité typiquement française dans le rapport au traitement de la langue. Dans cette monarchie de droit divin, c'est-à-dire un régime politique dont le pouvoir du monarque est légitimé par Dieu, la musique religieuse occupe une place centrale dans la vie publique. Elle intervient à de nombreux moments et en de nombreux endroits. À la messe quotidienne du roi, moment où s'affirme le pouvoir et se revendique l'autonomie du roi de France par rapport au pape. Lors des offices solennels, des dimanches et fêtes, lors des sacres, des mariages princiers, lors des victoires et des naissances royales. Elle se déploie à la chapelle royale, mais aussi dans les églises, cathédrales et couvents. Les compositeurs sont alors ceux que l'on appelle les maîtres de chapelle, en charge de composer et d'exécuter la musique religieuse. La musique sacrée est donc partout, plus encore que la musique profane.
Oh.
messes traditionnelles vont laisser progressivement la place à ce que l'on appelle le motet. Le motet est un genre de la musique sacrée, à l'origine polyphonique et né au Moyen-Âge, et qui subira de nombreuses évolutions, notamment au XVIIe siècle. En France, il faut distinguer le petit et le grand motet. C'est une affaire de proportion. Le grand motet réunit des chœurs, un orchestre, le petit motet réunit des voix solistes et un continuo. Rappelons que le continuo est cette formation généralement constituée d'un orgue ou d'un clavecin et de quelques instruments comme la viole ou le théorbe. Il réalise la basse continue, c'est-à-dire qu'il joue les accords qui soutiennent la ligne vocale en les inventant, seule la note la plus grave étant donnée. Influencé par la musique italienne et notamment son invention de la monodie accompagnée et du récitatif, les petits motets sont chantés après l'élévation, aux vêpres et au salut du Saint-Sacrement. Mais avant que ne se développe ce genre typique du grand siècle, rappelons qu'au début du XVIIe, la musique sacrée a encore un pied dans la Renaissance. Sous Henri IV, qui meurt en 1610, le maître de chapelle et surintendant de la musique est un certain Eustache Ducoroy, qui signera une Missa pro defunctis jouée lors des funérailles d'Henri IV, qui restera quelques années durant la messe des obsèques des rois de France. Ducoroy appartient encore au XVIe siècle et à sa polyphonie a cappella. Sous le règne de Louis XIII, succède à Ducoroy, aux fonctions de maître de la chapelle du roi, un certain Nicolas Formé, dont l'œuvre constitue une transition entre le motet polyphonique et le motet à grand chœur, celui qu'on appellera le grand motet. À la même époque, les compositeurs Eustache Picot et Antoine Bouesset, ce dernier étant plus connu pour ses airs de cour et ses ballets, poursuivent cette évolution. Sous influence italienne, la basse continue commence à apparaître dans ses œuvres. Autre compositeur sous le règne de Louis XIII, un certain Bousignac qui introduit le solo dans le motet, qui vient dialoguer avec les grands chœurs, ce qui fait progressivement glisser le motet vers l'oratorio. Un Étienne Moulinier se soucie aussi d'introduire la mélodie accompagnée et de renoncer au mode ecclésiastique traditionnel pour les modes majeurs et mineurs qui structureront l'ensemble de la musique à venir. Ces modes ecclésiastiques, que l'on appelle dorien, phrygien, lydien, mixolydien, étaient en vigueur depuis le Moyen-Âge, notamment dans le chant grégorien. Malgré ces évolutions, la grande part de la production sacrée française de cette première moitié du XVIIe reste étonnamment conservatrice. L'influence de la musique profane ou de l'air de cour se fait rare. C'est une musique tournée vers son passé polyphonique et encore trop hermétique aux innovations de la modernité italienne telles que développées dans le madrigal ou l'opéra. Il faut attendre l'entrée en scène d'un certain Henri Dumont pour que cette musique religieuse évolue et se modernise. Sous Louis XIV, Henri Dumont est maître de la chapelle royale avec un autre compositeur, Pierre Robert. Ce sont ces deux compositeurs qui vont fournir la majeure partie des motets chantés à la cour entre 1670 et 1683. Dumont abandonne la polyphonie a cappella, fait accompagner les chœurs par l'orchestre, introduit massivement le récitatif et invente véritablement le petit motet à une, deux ou trois voix accompagné d'une basse continue. La musique religieuse française fait là son entrée dans la modernité musicale. Il donne aussi ses lettres de noblesse au grand motet à la française, suivi de près par Lully. le Collegium Vocal de Gand et le Richercar Consort étaient placés sous la direction de Philippe Pierlot dans cet Exultat Animus de Henri Dumont que vous avez pu entendre dans son intégralité. Et juste avant, quelques petits extraits qui sont venus ponctuer mon propos, à savoir un Tristis est anima mea de Pierre Robert par l'ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Dossé, un Ave Verum Corpus de Jean Veillot, autre compositeur de la première moitié du XVIIe, toujours par l'ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Dossé, dans ce très beau disque qui vient de sortir et qui est consacré au compositeur de l'école de Notre-Dame de Paris et dont nous vous recommandons l'écoute. Et enfin, un petit extrait aussi de cette Missa pro defunctis, le fameux Requiem des Rois de France d'Eustache Ducoroy, l'ensemble Douce Mémoire, était dirigé par Denis Raisin d'Adre. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez comme chaque semaine le jeudi à 19h Harmonie du Soir, et que nous en sommes arrivés au quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à la musique vocale en Europe au XVIIe siècle avec la France entre motets et tragédies lyriques. Grande figure de la musique religieuse sous Louis XIV aux côtés de Lully et ses grands motets, c'est sans conteste Marc-Antoine Charpentier. Charpentier passe 3 mois à Rome et travaille auprès de Carissimi. Il en ressortira une indéniable influence italienne dans sa musique d'église. D'abord compositeur auprès de Mademoiselle de Guise, il sera ensuite maître de chapelle du Grand Dauphin. En raison d'une maladie, il ne put concourir au concours de 1683 pour remplacer Dumont et Robert à la chapelle royale. Il est alors nommé maître de musique du collège de Clermont. Il compose pour les cérémonies de cet établissement messes, motets et psaumes. Puis des histoires sacrées, nouveautés en France, véritables oratorios influencés par ceux de Carissimi. Il est ensuite nommé en 1698 maître de musique de la Sainte-Chapelle. Citons également quelques importants centres de production de musique sacrée sous le règne de Louis XIV. La maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, par exemple, fondée en 1686 par Madame de Maintenon pour l'éducation des jeunes filles nobles. Elle devient un véritable centre d'éducation pour la musique religieuse. S'y constitue le répertoire de Saint-Cyr, avec les motets de Nivers, Clérambault ou Moreau. Louis XIV assistait au salut de Saint-Cyr. Les motets étaient chantés par les religieuses et grands élèves lors des messes et saluts quotidiens. Citons également l'abbaye de Longchamp, autre centre névralgique de la musique française pour l'Église, tout comme l'école de Notre-Dame de Paris. Autre figure importante pour la musique sacrée de cette époque, Sébastien de Brossard. Chanoine et maître de chapelle à la cathédrale de Strasbourg, puis à la cathédrale de Meaux, de Brossard a réuni une importante collection de partitions qu'il légua à Louis XV. Il était un italianisant convaincu, ses motets sont inspirés des motets italiens avec de courtes sections.
Decreta sors mortalio. Reos palates, palates, obruet, tremana, majestas Dei. Penas venatem vadises, penas venatem vadises, quis, quis, quis est in enicidisem? Vivent ab alto, ab alto, ab alto, ab
Le baryton Alain Buet interprétait ce O plenus irarum dies de Sébastien de Brossard, un petit motet sous la direction de Robert Wedel. Juste avant, il y avait un extrait d'un O salutaris hostia de Marc-Antoine Charpentier par l'ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Dossé. Et vous avez pu également entendre, dans son intégralité cette fois, un autre petit motet de Charpentier, Tristis est anima mea. L'ensemble Pierre Robert était dirigé par Frédéric Desenclos. Je vous propose maintenant d'aborder cet autre aspect de la musique vocale en France au XVIIe siècle, à savoir la musique consacrée au théâtre, la musique profane donc, avec l'invention par Jean-Baptiste Lully de la tragédie en musique, autrement appelée tragédie lyrique.
Au XVIIe siècle, en France, nous l'avons dit, la musique est partout. À l'église, nous venons de le voir, mais aussi dans les théâtres et à la cour. Sous l'impulsion de Mazarin, cardinal romain, et sous l'influence d'une reine d'origine florentine, Marie de Médicis, les Français entretiennent un rapport étroit avec l'Italie et ses artistes. Les opéras italiens de Luigi Rossi sont joués à Paris autour des années 1645, puis ceux de Cavalli en 1662. La France s'ouvre à une sensibilité qui ne cessera de féconder ses formes d'expression artistique. Mais cette relation est également ambiguë, faite de rivalité et de concurrence, et c'est cette tension qui permettra à une esthétique baroque française d'émerger au XVIIe siècle. Les vocalises, la virtuosité, le travail mélodique, la volupté, la sensualité de la musique et du traitement de la voix chez les Italiens sont d'abord comme aux antipodes d'une esthétique française telle que pratiquée dans l'ère de cour. Inventer un opéra français va donc être une tâche de longue haleine qui va subir différentes étapes. Nous pouvons en retenir deux principales. Le ballet de cour et la comédie-ballet, préalables essentiels et incontournables pour que la tragédie en musique, c'est-à-dire l'opéra français, puisse voir le jour. Le ballet de cour est un genre hybride qui mêle intrigue dramatique, danse, chant, musique instrumentale. Le ballet comique de la Reine de Balthazar de Beaujoyeux est une œuvre fondatrice de ce genre, largement sous l'influence de la musique italienne. Les parties chantées le sont d'ailleurs en italien. Seconde étape, la comédie-ballet. Rappelons l'importance que joue Molière dans l'évolution et le développement de la musique en France au XVIIe. C'est une étape décisive, car ici se joue un rapprochement très resserré entre la musique et l'action dramatique. La musique cesse d'être un ornement, elle est un élément centrale de l'action et elle est reliée au texte. C'est la collaboration entre Lully et Molière qui va fixer les canons du genre. Les deux hommes signeront ensemble 8 ouvrages.
Entre lui, vous et moi,
entre lui, vous et moi,
vous et moi,
Jérôme, Jérôme,
ma belle,
une ardeur éternelle.
Entre lui, vous et moi,
Jérôme, Jérôme,
ma belle,
une ardeur éternelle.
Nous arrivons alors à l'invention de l'opéra français, autrement appelé tragédie lyrique ou tragédie en musique, invention que l'on doit à Lully, même si l'œuvre de Perrin et Cambert, Pomone, est généralement présentée comme le premier opéra chanté en français. Il n'a pas la cohérence et l'unité des œuvres ultérieures de Lully et s'apparente plus à une succession d'airs. La création, en avril 1673, de Cadmus et Hermione de Lully signe l'entrée de la France dans le monde de l'opéra. L'une des questions centrales de l'opéra français demeure le récitatif. Il s'agit de trouver les moyens d'une amplification musicale de la déclamation parlée. Les airs sont intégrés dans le récitatif et ne bénéficient pas encore d'une autonomie telle que l'opéra italien commence à la pratiquer à la même époque. Les chœurs ont également une importance forte. L'ouverture, dite à la française, est également établie. Elle consiste en une partie lente en valeur pointée, suivie d'une partie vive et d'un retour à la partie lente en style fugué. Ce nouveau genre, fruit d'une évolution des formes que nous venons d'évoquer et dans l'héritage direct de la tragédie classique et de la tragédie à machine, va s'imposer à la culture française et à l'histoire de la musique.
Thank you.
Vous venez d'entendre la scène du sommeil dans Attis de Lully. Les arts florissants étaient placés sous la direction de William Christie. Et juste avant, il y avait l'ouverture de ce même Attis de Lully, toujours par les arts florissants et toujours sous la direction de William Christie, un enregistrement historique de cet opéra, dont on se souvient de la fameuse mise en scène célèbre de Jean-Marie Vilgier. Et puis, juste après, il y avait un petit extrait aussi du Bourgeois gentilhomme de Lully et Molière, et cette fois, c'était la Symphonie du Marais, placée sous la direction de Hugo Rennes, qui interprétait cet extrait. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, vous écoutez Harmonie du Soir, quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à la musique vocale en Europe au XVIIe siècle, aujourd'hui donc la France et sa musique consacrée au théâtre. Mots sur le grand héros de cette épopée, Jean-Baptiste Lully. Il est né à Florence en 1632 et arrive en France comme garçon de chambre chez Mademoiselle de Montpensier, où il va poursuivre son éducation musicale, éducation dominée par le style français d'un Étienne Moulinier ou d'un Michel Lambert. À cette époque, Lully reste néanmoins italien. Son sens mélodique et ses talents de rythmicien dominent. Il est à la fois instrumentiste, danseur et compositeur. Les œuvres de cette première période créatrice sont des pièces de style italien qui s'insèrent dans les ballets de cour. Il quitte le salon de la grande mademoiselle, rejoint Paris, Lambert et le roi. Il danse aux côtés du roi et va devenir compositeur de la musique instrumentale du roi. Première rampe de lancement d'une carrière qui le conduira du ballet de cour à la comédie-ballet pour aboutir à la tragédie lyrique, tout en occupant les fonctions de surintendant de la musique puis de conseiller secrétaire du roi. Parmi les caractéristiques du genre de cette tragédie lyrique ou tragédie en musique, citons le traditionnel et systématique prologue, dont l'objet est d'exalter le roi soleil et de poser le sujet de l'opéra, généralement l'amour ou la gloire. L'action qui s'ensuit met en scène des personnages qui se débattent avec des amours perturbés par le destin. Le merveilleux permet généralement de résoudre ces situations complexes. La tragédie lyrique suit la voie tracée par la tragédie classique française, dans sa structure et son équilibre, mais elle puise aussi sa source dans un autre genre, la tragédie à machine, qui exalte le spectaculaire des décors et des apparitions. Cet aspect est aussi un élément de la tragédie lyrique, qui conserve aussi la danse dans sa filiation avec le ballet de cour et la comédie-ballet. Le mélange des genres et des styles, l'illusion, le trompe-l'œil sont au cœur du monde baroque et de cette tragédie lyrique qui donne à voir et entendre ce que la tragédie classique, dans sa rigueur et sa mesure, refoule peut-être quelque peu. Pour entrer plus en détail dans les procédés d'écriture de Lully, rappelons peut-être l'un des principes fondateurs, à savoir que la musique est soumise à la langue. Elle est calquée sur la parole, elle l'amplifie et suit rigoureusement ses inflexions. Dans cette perspective, le rythme, chez Lully, est soumis à une alternance de mesures binaires et ternaires afin de suivre la prosodie. Sur le plan mélodique et harmonique, les notes de passage, les changements de tonalité, les chutes mélodiques ou les montées chromatiques sont autant de moyens pour servir et rendre expressive la déclamation. Le récitatif peut aussi être accompagné par l'orchestre pour encore plus d'effet. Les airs sont rares et sont intégrés au récit. Nous pouvons les ranger en deux catégories. L'air maxime, qui exprime une idée générale, qui est pris en charge par un personnage secondaire et qui peut faire songer à l'air de cour, et le grand air expressif, plus long, qui propose un développement psychologique et qui est doté d'une construction harmonique plus riche. Thank you. C'était la chanteuse Stéphanie Doustrac qui interprétait cet extrait de Percée de Lully, et juste avant, il y avait deux autres extraits, cette fois instrumentaux, de ce même Percée, tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully. Le concert spirituel était placé sous la direction de Hervé Niquet. Je vous propose, pour les quelques minutes qui nous restent, d'écouter un extrait d'une autre tragédie lyrique, cette fois d'un autre compositeur, qui a été quelque peu mis à l'écart par Jean-Baptiste Lully, qui avait lui le privilège et même l'exclusivité de la composition des tragédies lyriques. Je veux parler de Marc-Antoine Charpentier et de sa fameuse Médée.
Thank you.
Stéphanie Doustrac, le concert spirituel dirigé par Alice Pierrot, interprétait cet extrait de Médée de Marc-Antoine Charpentier, « Quel prix de mon amour ». Nous arrivons donc au terme de cette émission consacrée à la musique vocale en France au XVIIe siècle. C'était aussi le dernier épisode de notre série consacrée à la musique vocale, toujours au XVIIe, mais cette fois plus globalement en Europe. Nous avons abordé l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et aujourd'hui la France. Toute cette série, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site internet d'Aligre FM. Nous vous souhaitons une très bonne soirée à l'écoute du 93.1 et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.